les choses.
Et puis, ouais, parce que sinon, vous avez quoi comme parfum?
Sinon, j'ai pamplemousse comme...
Tout est là.
Ah.
Ouais, bah écoutez, fraise. Et puis un verre d'eau aussi,
s'il vous plaît.
Ah, mais moi aussi, je prendrai un verre d'eau, s'il
vous plaît. Très bien. Ça marche.
C'est étrange que tu me dises ça parce que fondamentalement non, mais d'un autre aspect oui, parce que tous ces gens-là ont travaillé avec Alain Bachung, mais ils ne savaient pas vraiment de lui.
C'est qui les autres que tu as sur ta liste?
Jean-Claude Dreyfus, qui a joué dans un film avec Alain Bachung.
Ah ouais?
Le petit curieux.
Ah oui, d'accord.
Ouais, il fait le rôle d'un détective, Bachung. Et est-ce que tu te souviens?
Oui, mais je ne me rappelais plus de Dreyfus dedans.
Ok. Non, mais moi, en fait, je rencontre des gens et c'est dans le cadre de mon émission Errance canadienne. Et ce que je fais, c'est que on relate la carrière des gens que je rencontre. Comme toi, tu es plutôt rattaché aux artistes. Tu fais des biographies, tu travailles sur...
Ouais, je fais beaucoup de biographies d'artistes, mais je me limite pas à ça. Merci.
Merci.
Des nouvelles aussi, un roman policier, je vais sortir un recueil de poésie l'année prochaine. Toutes les formes d'écriture m'intéressent.
Mais à la base, tu es russe par ton nom?
Ouais, par mon nom, ouais, par mes grands-parents.
Ok.
Ouais.
Mais tu parles pas le russe?
Non.
Mais comment tu prononces ton nom? Parce que je voulais pas l'écorcher.
Alors, en fait, en français, tu le prononces Pierre Mikhailov.
Mikhailov?
Voilà. Et en russe, sinon, tu dis Piotr Mikhailov.
Mais Pierre, c'est pas tout à fait russe.
Non, mais il y a beaucoup de Piotr.
Ok.
Il y a beaucoup de Piotr. C'est l'équivalent. Alors Piotr, ça s'écrit avec l'équivalent de la lettre P en cyrillique.
Ah oui, c'est vrai, parce que le russe, c'est pas comme...
Oh,
oui.
Ouais, c'est ça. I-P-O. L'équivalent de la lettre T en cyrillique et de la lettre R aussi en cyrillique, ça fait Piotr.
Ah ok. Et puis t'es arrivé en France
Non, c'est mes grands-parents qui sont arrivés en France dans les années 20.
Ok, alors toi t'es parisien. Et t'es né à Paris?
Je suis né dans le 92.
Stars qui sont québécois et qui n'ont jamais visité Paris, le 92.
Alors le 92, ça fait un petit peu moins rêver que Paris. C'est au sud de Paris, au sud de Paris, c'est la banlieue sud. Voilà, ça touche Paris.
Et aujourd'hui, c'est la banlieue que Sarkozy réprimandait il y a quelques années.
Alors non, ça c'est la banlieue que Sarkozy aime bien.
Aime bien Châtillon.
Voilà, mais là, c'est la banlieue qui vote à droite. C'est la banlieue sarkozyste.
Ok.
C'est le 92, c'est des maires en général UMP.
Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Est-ce que tes parents écrivaient? Est-ce que ta mère, ton père...
Non, mais il y avait beaucoup de livres chez moi.
Ok.
Lesquels? Alors, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de littérature classique.
Ok.
Il y avait...
Française?
Ouais, française et puis russe aussi.
Ah ouais, ben oui.
Et puis américaine aussi. Des Hemingway, des Steinbeck. Ça, c'est les premiers américains que j'ai lus. Et puis ma mère lisait pas mal de policiers, des Agatha Christie, des Maigret.
Oui.
Et j'aime toujours, j'aime beaucoup Simenon.
Jean Simenon,
ouais,
avec
beaucoup.
Son environnement. Mais c'est un des rares romanciers qui est très facilement transposable au grand écran. Simenon, ouais. C'est très cinématographique. Tu peux lire du Simenon et tu te fais un décor. Mm-hmm.
Et toi, t'expliques ça comment c'est propre à Simenon ou à tous les romans policiers, tu trouves ça?
Non, je crois pas, moi.
C'est propre à lui, ouais.
Obscurs, ben oui.
Parce qu'il bâtit un univers comme ça très...
Parce qu'il mettait en place un noyau de personnages qui est un peu comme les films de Claude Sautet vivaient même en dehors du roman.
C'est vrai.
Tu refermais le roman.
C'est un microcosme, un micro-monde, ouais.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les films de roman, lorsque tu sors du film, les personnages vivent, ils sont dans les rues, que tu sois au Québec ou partout à Montréal ou crois même à Berlin, tu peux le voir frustré ou même en doublé. Quoi que doublé, les gens plus ou moins ça. Là. Mais les personnages vivent.
C'est vrai que, comme tu dis, ils ont une vie après la fin du roman, ils continuent de vivre. C'est vrai, c'est vrai.
Oui, mais c'est tout à fait singulier, c'est-à-dire que c'est très. Normalement, essaye de nous chapeauter quelque chose de comment dire, accessible rapidement. hein, pour que l'on s'associe au personnage. Tandis que si Benoît, tranquillement, nous amène le personnage avec une richesse du gros autour, un certain jeu, et au bout du compte, ben, c'est des gens qui nous suivent après. Hein.
Et puis avec peu de mots, en plus, son talent, c'est qu'il fait ça avec peu de mots.
Oui.
C'est des bouquins de 150 pages, 180 pages. Et
effectivement, c'est bien concis.
Ouais.
Et ça peut initier un étudiant qui ne veut pas se farcir des œuvres de 600, 800 pages ou peut-être un peu plus obscures comme non pas Marguerite Duras, mais Marguerite
Yourcenar.
Très, très obscure, le mot noir. Bon, les étudiants peut-être en arrachent ces auteurs-là, mais d'un autre côté, il faut passer par les grands pour à un moment donné comprendre la littérature en général. Mais pour revenir à toi, les mots se sont amenés tout à fait naturellement, ou au contraire, tu as été un académicien, tu as étudié la littérature et tranquillement tu t'es dit, mais moi je vais m'ouvrir un segment de création qui n'existe pas.
Ouais. Non, alors, moi je suis complètement autodidacte parce que j'ai quitté l'école très tôt, enfin on m'a aidé à quitter l'école très tôt. J'ai même pas mon bac, je suis parti en seconde en fait parce que j'étais
comme François Truffaut dans le fond. Hein,
voilà, un peu comme Truffaut. Okay. Et Truffaut, il avait une opinion très très particulière sur l'école. Il disait qu'il valait mieux faire au plus vite. Il disait que pour un jeune, il vaut mieux faire au plus vite des petits boulots et connaître l'existence.
L'école de la vie.
À l'école de la vie, que de rester étudiant jusqu'à 25 ans. Et lui, il était un peu contre les études supérieures. C'est vrai qu'il s'en est pas mal sorti et qu'il y a plein de moyens d'étudier. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait.
En fait, c'est de rencontrer aussi de la littérature, rencontrer des gens, rencontrer
des gens,
rencontrer
voilà.
Le cinéma.
Rencontrer... Alors au départ, moi, j'ai rencontré la musique. J'ai toujours écrit, je me suis toujours intéressé à la littérature en commençant par les sous-genres, par les genres qui sont décriés, la science-fiction, la bande dessinée, toutes ces choses qui ont mis du temps à être acceptées. Voilà, par l'art mineur, voilà. Et maintenant, je trouve qu'on en fait un peu trop. Maintenant, ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'on met sur un piédestal la bande dessinée, le roman noir, la science-fiction. Et on l'amène au grand public, mais je trouve ça dommage parce que je préférais quand on était un petit clan de passionnés.
Select et fermé.
Ouais, et finalement, il y avait plus de liberté chez les auteurs, alors que maintenant, comme les auteurs de romans noirs, de bandes dessinées et de science-fiction savent qu'ils s'adressent au grand public, ils ont tendance à faire une littérature beaucoup plus édulcorée, beaucoup plus banale. Oui, voilà,
accessible.
Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon. C'est un autre débat, mais donc j'ai commencé par là et je trouve que en général les professeurs, à part quelques-uns de français, parlaient très mal de la littérature et donnaient pas du tout envie de lire.
C'est vrai. Au Québec aussi.
Et voilà, c'est un problème assez général. Hein.
Il faut avoir un bon prof de philosophie pour vous amener autre chose, vous amener une autre structure de la philosophie pour s'y attarder et surtout pour s'y intéresser, parce que si tu commences à parler de Platon, il y a Michel Lem qui était professeur de philosophie, on l'a foutu dehors. Parce qu'il était trop extravagant, il faisait des bandes dessinées, il faisait parler ses personnages, il faisait parler Platon, et à un moment donné, le professeur du lycée l'a foutu dehors.
Il était en avance, ouais.
C'est moi, je vais juste
faire ça. Ouais. Non, je paye. Merci.
Il était en avance sur son temps, ouais.
C'est super bon. Ouais.
C'est super bon.
Ah, ouais. Merci. Ouais, et qui ça qui t'a vu, Michel Lev?
Ouais.
Peut-être moins.
Maintenant, je pense que c'est des choses qui se font. Associé à la bande dessinée. Par exemple, si tu prends sur France Culture, il y a Raphaël Enthoven qui fait une émission quotidienne sur la.
Est-ce que c'est téléchargeable?
Ouais, bien sûr, okay. Sur France Culture.
Parce que France Culture va choisir.
Et des fois, il fait des émissions sur Tintin, et abordées avec une lecture philosophique. Tintin commenté par des philosophes.
Mais sous la houlette de l'humoriste.
Non. Très sérieusement.
Et accessible.
Ah oui, tout à fait. Bah, ça, c'est que ça a quand même.
Parce que je viens de me rendre compte que le français c'est un. Oui, vas-y.
Oui, non, parce que France Culture, ça a quand même pour mission de vulgariser la culture.
Oui.
Donc c'est accessible.
C'est accessible,
ouais.
Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, à part la bande dessinée et.
Bon, je pense que c'est le désir de m'exprimer, le désir de raconter des histoires. Déjà à moi.
Ok.
Déjà à moi de raconter les.
Te surprendre toi-même à travers l'écriture ou surprendre les gens qui vont trouver ce que tu écris intéressant?
Bah déjà, il y a un plaisir dans le fait même d'écrire. Je sais que quand j'étais enfant, je pouvais écrire des petites histoires. Déjà de l'imagination et okay. D'imaginer.
Mais des oublier aussi et des relire après, puis de te dire que c'est toi qui les as.
Et après, il y a un plaisir de relecture. Alors, après, comme dans toute œuvre, toute petite œuvre, il y a un petit plaisir, tu vois, égomaniaque, de se relire, de se dire qu'on a fait quelque chose qui tient la route. Ça, c'est. Dans toute création, il y a cette part-là.
Mais à quel âge tu as écrit en te disant je veux en vivre, je veux que ce soit ma vie, je veux consacrer ma vie à l'écriture, au mot surtout?
Alors, au départ, moi, je voulais consacrer ma vie à la musique. Alors, okay. Je l'ai fait.
Qu'est-ce que tu fais comme. Tu joues d'un instrument de musique?
Alors, j'ai joué très longtemps de la guitare, j'ai joué.
Guitare sèche, guitare classique.
Guitare électrique, guitare acoustique. J'ai joué dans un groupe qui était signé dans les années 80 qui s'appelait Les Désaxés.
Ouais.
Qui était un groupe plutôt pop, rock pop. Et après, j'ai joué avec Jacques No, qui est un artiste.
Jacques No, qui est décédé.
Voilà, qui est décédé à la fin de l'année dernière.
Imagine-toi!
Et il est décédé en fin 2009.
Hey, j'ai appris sa mort il y a quelques mois et personne n'en avait parlé. Et moi qui vais souvent sur des sites français, France Inter, j'ai pas entendu Jacquenot. Est-ce que c'est un chanteur underground encore aujourd'hui?
Ouais, c'est-à-dire que c'est très paradoxal parce que il est assez aimé des médias. Donc si tu veux. À chaque fois qu'il sortait un disque, par exemple, il y avait une couverture médiatique qui était disproportionnée par rapport à ses ventes et par rapport à l'intérêt du grand public. Parce que c'est un artiste qui a beaucoup marqué les années 80 et toute la génération de journalistes qui actuellement écrit dans les Inrecuptibles, dans toute la presse culture, les intellos, ils viennent de cette génération-là et ils connaissent et ils aiment Jacquenot. Okay. Et donc, dans les Inrecuptibles, par exemple, il y a eu un article, tout ça, à sa mort, un bel article. Mmh. Et
il a fait combien d'albums, Jacquenot? 6-7?
Ah, il en a fait beaucoup, ouais.
Il s'est joué avec Élie Medeiros.
Alors, il y a eu Élie et Jacquenot, ça c'est une super période.
Est-ce que tu peux le redire avec une klaxon?
Alors, Élie et Jacquenot.
Ah oui, ok, oui. Élie Medeiros qui est.
Élie et Medeiros, voilà, Toi, mon toit, énorme tube dans les années 80. Oui, oui. Et avant, elle avait ce groupe Élie et Jacquenot. Et encore avant Élie et Jacquenot, il y avait ce groupe qui s'appelait les Stinky Toys, qui là était vraiment un groupe punk parisien. Avec
vrai punk là. On associe les Taxi Girls à la musique un peu punk, mais c'est plus pop que punk.
Non, Taxi Girls, c'est vraiment un groupe pop.
Mais pourquoi on l'attribue punk?
Parce que si tu veux, ils viennent de la culture punk. Daniel Dark, c'était un fan de punk rock. Et son malheur, entre guillemets, c'est qu'il avait un manager qui les poussait à faire de la pop parce qu'ils savaient que le punk c'était pas une musique qui est commerciale et qui ferait rien.
C'est pas
donc,
vendeur.
C'était pas vendeur ni vendable. Donc il les poussait vers la pop. Et finalement c'est les managers qui a gagné.
Okay.
C'est vrai qu'ils ont fait des pubs, des tubes avec des morceaux pop.
Et Jacquenot, on va revenir à Jacquenot.
Voilà, et Jacquenot, lui au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui aime la pop à la base, qui a toujours fait ça. Au début, il faisait du punk parce qu'il savait pas très bien jouer, du coup, c'était la musique la plus accessible. Mais après, c'est quelqu'un qui est très fan de Françoise Hardy, de Gainsbourg, de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il s'est vraiment, vraiment éclaté dans la période Élie et Jacquenot, parce que là, ils ont fait la musique d'un film de Romer, par exemple. Ils ont fait la musique des Nuits de la Pleine Lune.
Oui, oui.
Et là, on sent que c'est une musique qui est à la fois qui est très romantique. Elle est pas seulement rock.
Non.
Il y a quelques éléments rock, mais ça va vers autre chose. Ça va vers la chanson, vers des...
Est-ce qu'on peut associer Jacquenot et Manset dans le côté médiatique, peut-être surréaliste? Et aujourd'hui, ce que ça donne, c'est-à-dire que Manset fait jamais spectacle, se présente jamais, on sait même pas de quoi il a l'air. Il a fait sa carrière là-dessus et on l'a réentendu grâce à Bachon.
Alors, je trouve qu'on peut pas du tout les associer parce que le paradoxe de Manset, c'est qu'effectivement, il est très secret, il donne jamais de concert, mais il a un public. Il vend des disques, Manset.
Et Jacquenot n'en vendait pas.
Alors que Jacquenot, il aurait rêvé de vendre des disques, d'être plus populaire. Mais il y avait un blocage. Il y avait un blocage, je pense, par rapport à son image, qui pour les gens, qui était un peu fausse, comme toutes les images publiques, mais les gens l'associaient à la branchitude, aux années palace, au milieu très parisien, très chic, etc. Alors qu'en fait, lui, il rêvait d'avoir un tube populaire. Et là où il s'est le plus éclaté dans sa vie, c'est quand il a produit Jacques Higelin.
Okay,
il
oui.
a produit l'album Tombé du ciel.
Mm-hmm.
Et là, c'était vraiment le genre de milieu où il s'éclate, de faire de la bonne musique qui soit à la fois sans concession et populaire.
Et accessible, surtout.
Et accessible, oui.
Ouais. Et tranquillement, on va revenir à toi et à l'écriture. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je veux m'implanter dans la littérature comme beaucoup d'autres? Crois-tu que tu peux offrir aux gens une bulle créative qui n'existe pas ou qui n'a pas encore existé?
Difficile, ça.
Non, c'est comme Marguerite Duras l'a fait. Hein,
ouais.
Comme,
Alors, écoute, je sais pas, je pense que moi, sinon je n'écrirais pas, évidemment, si je pensais que j'avais rien de plus, rien à apporter. Je pense que par rapport à des genres qui existent, j'ai déjà des regards qui sont un petit peu différents, qui me sont personnels.
Tu es.
Par exemple, moi, je m'intéresse aux uchronies.
C'est-à-dire,
tu prends un point de l'histoire et à partir d'un certain moment, il y a une bifurcation. C'est-à-dire que tu prends plus le cours des choses comme elles se sont déroulées dans la réalité, Mais t'imagines qu'à un moment donné, l'histoire se déroule autrement.
Ok, tu rajoutes des personnages fictifs à travers la réalité.
Où tu prends des personnages réels, mais tu fais bifurquer l'histoire. Par exemple, au lieu de dire que c'est les Américains qui se sont posés en premier sur la Lune, tu écris une histoire où c'est les Soviétiques. Toute l'histoire qui en découle est différente.
Ok, oui.
Voilà, c'est des choses comme ça.
C'est en fait prendre la réalité et comme sur un miroir...
La déformer légèrement.
Ouais, ouais. Okay.
Donc ça, c'est un genre qui m'intéresse. J'ai une idée... J'ai un projet.
Peut-être que tu viens de donner des idées à des Québécois.
Peut-être que c'est trop tôt pour en parler, voilà.
Non, mais c'est bien.
Je ne vais pas donner d'idées aux Québécois.
Quoique, il y a beaucoup de créateurs québécois qui chez nous, contrairement à ici, on a une autre richesse, c'est-à-dire le joual. Hein. Michel Tremblay, je ne sais pas si tu connais Michel Tremblay.
Non.
La belle-sœur de Michel Tremblay. J'ai parlé de ça à Dreyfus, parce que Dreyfus, c'est un type qui se travestit beaucoup dans ses œuvres, et je lui ai demandé s'il avait joué du Michel Tremblay, parce que Michel Tremblay amène beaucoup de travestis, des gens un peu comme ici sur la rue. Oberkampf, tout à fait explosif, on peut rencontrer des riches, des pauvres, des intellos, et ça c'est l'univers de Michel Tremblay avec, bien sûr, le joual.
C'est encore beaucoup parlé, le joual, parce que...
Oui, surtout dans la langue orale. Dans la littérature, un peu moins, sauf que il y en a certains qui l'utilisent. Michel Tremblay, ce qui est extraordinaire dans son œuvre, c'est que la narration est correcte, un français correct, un français même assez recherché. C'est les dialogues qui sont joyeux. Pourquoi viens-tu ici? Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas du français, français traditionnel. Donc. Et donc, c'est à travers les dialogues qu'on amène la richesse du Québec, un peu comme Gilles Vigneault avec
ouais, un petit peu ce que faisait Raymond Queneau aussi en essayant
Raymond Queneau, oui, dans l'humour. Oui.
Puis il essayait de faire évoluer la langue écrite pour la faire coller à la langue orale aussi.
Oui. Mais lui, c'était encore les campagnards qui parlaient beaucoup de campagnards, beaucoup de. Des gens de la ville qui allaient voir les gens de la campagne et des gens de la campagne qui allaient voir les gens de la ville. Et c'est la confrontation entre tout ça. Mm. Et c'est ça qui est rigolo, c'est des grands personnages. Mais pour venir à la littérature et à ta façon de voir la littérature, tu écris des nouvelles, de la poésie, des biographies. Des biographies. Est-ce que c'est des biographies autorisées?
Alors, c'est des biographies non autorisées. Et peut-être que plutôt de parler de biographie, je pourrais parler de portrait, parce que c'est des ouvrages que je traite de façon assez personnelle.
C'est quoi par rapport à l'artiste?
C'est un petit peu... déjà, il faut que l'artiste m'ait intéressé, m'ait parlé dans ma vie. Donc, j'ai écrit en fait sur... J'ai fait 4 bios principales. J'en ai fait une sur Françoise Hardy, sur Jane Birkin, sur Alain Bashung et sur Noir Désir. Et j'allais faire un ouvrage sur Taxi Girl aussi, où j'avais rencontré Daniel Darc. Et si j'avais pas pu le rencontrer, j'aurais pas fait le livre, parce que je voulais vraiment avoir son... Il est sorti en 2008.
Okay.
Chez un éditeur qui m'a...
Alors tu l'as rencontré en 2007.
Je l'ai rencontré en 2007, exactement. Okay. Voilà, et... Le livre était chez un éditeur qui a fait faillite, mais il reparaîtra. Je vais le faire reparaître.
Okay.
Et...
Est-ce que c'est la maison d'édition?
La maison d'édition, c'est Scali. Alors je pense que je le ferai reparaître chez Camion Blanc, parce que c'est un éditeur...
String of twine, if you take your time and take mine too. I have time to spend. Take your time, go with me through time till all time's in. Take your time, I can't wait for all. Time. take your time, go with me through times till all times end. Take your time, I can't wait for all the love I know will be mine if you take your time.
Je sais que les bios que j'ai faites, les quatre dernières, c'est-à-dire Hardy, Bashung, oui. Gainsbourg, pas Gainsbourg, Birkin, et Loire Désir, je sais qu'elles étaient, ça passait aussi. Hein.
Ok, oui.
Et donc, je sais que celles-là, elles sont disponibles au Québec,
oui.
Elles sont, parce que je travaille avec un éditeur qui est distribué au Québec, donc celles-ci sont arrivées. D'ailleurs, j'ai eu des ventes au Québec, j'ai vu, donc il a été distribué.
Timidement ou...
Oui, timidement, parce que...
Allez, Bashung, peut-être un peu plus...
Oui, ça, au Québec, c'est quelques centaines d'exemples.
Oh oui, ben.
Mais ça existe déjà.
Ok. Ouais. Pour revenir à François Hardy, qu'est-ce qui t'a intéressé de nous proposer de nouveau sur François Hardy? Quel œil tu voulais?
Mais alors, déjà, lorsque j'ai signé ce contrat pour faire une bio de François Hardy, il n'y avait rien sur elle. Il n'y avait rien de disponible. Tout était épuisé.
Okay.
On ne savait pas qu'elle préparait son autobiographie. Donc,
c'est en quelle année?
Bah, on a dû signer, je sais plus, fin en 2008, je pense qu'on a signé.
Est-ce qu'elle était d'accord?
Alors, elle n'était évidemment pas d'accord, puisqu'elle préparait son autobiographie.
Mais tu pouvais quand même éditer. Elle n'a pas arrêté l'édition, elle ne sait pas...
Non, parce que si on prend juste la loi, on peut écrire sur une personne publique. On peut écrire
sans qu'elle le veuille.
Voilà, parce qu'à partir du moment où tu es une personne publique, tu t'exposes à ce que l'on écrive des biographies sur toi, à ce qu'on s'intéresse à ton travail, qu'on commente ton travail. Et tu peux pas empêcher un journaliste, un écrivain d'écrire un article ou d'écrire un livre sur une personne publique, puisqu'elle est publique et donc met sa personne, si tu veux, sur la place publique.
Et tu peux revenir contre l'auteur si...
Voilà, ça c'est de la diffamation.
Okay.
Alors... Ça, j'ai jamais été attaqué, donc je suis pas. Voilà, j'ai pas eu de problème.
Explique-nous là, comment tu écris, exemple, l'œuvre de François Hardy selon toi, Pierre.
Voilà, bah alors, François Hardy, ce qui m'intéressait, c'était évidemment, moi j'avais. Il y avait des chansons d'elle qui sont parmi mes 10 chansons préférées. Par exemple, Message personnel de la musique et une partie des paroles sont faites par Michel Berger, que par ailleurs, j'aime pas beaucoup, mais pour le coup, je trouve que ce morceau-là est un pur chef-d'œuvre que je mets aux côtés des Rolling Stones, des Who, des Beatles, des pièces maîtresses de la musique pop.
Okay. Pourquoi? Et... Est-ce que c'est les paroles ou la musique ou l'ensemble des deux?
Bah, je pense que ce qui fonctionne avec François Hardy, c'est sa voix et sa façon de déclamer, sa façon de réciter. Et en plus, ça, c'est un morceau vraiment en talk over où elle parle, elle chante les refrains, mais les couplets sont parlés. Et là, ça met vraiment en valeur sa voix. Et donc voilà, ce qui m'intéressait chez elle, c'est que c'est une des premières femmes, bien avant le féminisme, parce que c'est bien avant mai 68, elle signe vers 61-62 son premier contrat. C'est la première femme qui impose d'écrire ses musiques, ses paroles, qui se débarrasse à l'époque tous les chanteurs de... On va dire, c'est même avant le yéyé, ça va être le début du yéyé. Tous les chanteurs font des adaptations anglo-saxonnes, ont des tandems de producteurs, d'impresarios qui leur imposent des chansons. Elle arrive, elle ne connaît personne dans le milieu.
Sauf du tronche, quoi.
Elle le rencontrait après.
Okay.
C'est une petite étudiante de la Sorbonne qui fait des chansons dans sa cuisine chez sa mère.
Guitare-voix.
Elle va voir les directeurs artistiques et elle signe chez Vogue. Et ce qui m'intéressait, c'était le parcours de cette... petite nana qui vient pas du milieu, pourquoi on est quand même dans les années 60 en France, la société est vraiment hyper hyper rigide, tout est planifié, il n'y a pas encore le phénomène des teenagers, il n'y a pas encore beaucoup de rock, il n'y a pas le yéyé. Et pourquoi cette fille qui était promue à faire des études de lettres à la Sorbonne, à être une bonne mère au foyer, à épouser un bon parti et avoir plein d'enfants, pourquoi elle a eu ce petit, voilà, ce petit décalage, cette bifurcation? Et alors que c'est quelqu'un qui est très posé, très calme, et donc il y a ce grain de folie chez elle que je voulais raconter, que je voulais explorer. Et ça, c'est presque des excentricités à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire
calme, hein.
Une personne qui a l'air très calme, et elle a un petit grain de folie en elle qui fait que de temps en temps, ça dérape.
La subtilité. C'est un grain de subtilité qui, aujourd'hui encore, elle ne fait jamais de scène.
Non, surtout pas. Depuis 68, elle n'a jamais fait de scène. Ouais.
C'est parce qu'elle trouve que si un jour elle monte sur scène, elle veut que ça soit extravagant. Elle a dit, on est occupé. C'est ce que j'ai entendu dire.
Non, c'est parce qu'elle se trouve mauvaise sur scène.
OK. Ah, mais parce qu'elle disait aussi qu'elle voulait avoir beaucoup d'enveloppes.
Ça, je crois pas. Je crois pas que ce soit la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'elle se trouve mauvaise sur scène. Et déjà, elle a beaucoup de complexes vis-à-vis de ses qualités musicales. Et sur scène, elle a jamais su quoi faire de son corps. Okay. Elle se mettait devant un micro et elle estimait que.
Jane Birkin non plus, hein.
Ouais, voilà, mais disons que. François Zardis.
Elle acceptait Jane Birkin.
Voilà. Elle l'accepte. Alors que François Zardis, ce qu'elle aime aller voir sur scène, c'est les Rolling Stones, c'est Johnny Hallyday, des gens qui bougent beaucoup. Et comme elle ne sait pas faire ça. Ben, elle a décidé de plus monter sur scène.
Question, est-ce qu'elle est encore avec George Strait?
Alors leur histoire, ça c'est assez intéressant aussi. Oui, hein. C'est qu'en fait, il y a une sorte de gentleman agreement entre eux.
Ils habitent jamais ensemble.
C'est là qu'ils habitent ensemble, mais ils habitent un triplex.
C'est
donc
ça.
Ils ont chacun un étage.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui. Okay. Et il y a un étage où ils se retrouvent.
Oui.
Où ils déjeunent, où ils dînent ensemble, où ils prennent leur repas.
Qui étaient plus ensemble.
Mais ils ont chacun leur étage.
Okay.
Avenue Hoche.
Okay.
Voilà, dans les beaux quartiers. Et ils ont un étage pour se rencontrer.
Ok. Et ils sont encore ensemble.
Ils vivent ensemble et ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est. Mais ils ne sont plus un couple dans le sens. Dans le sens mari et femme, comme on l'entend.
Ok, okay, ils sont beaucoup plus.
Ils ont chacun vécu de leur côté, ouais.
Ok,
ouais,
donc
ouais.
Ils se croisent un peu.
Ouais, et si tu veux, ils se sont dit que de toute façon, ils finiraient leur jour ensemble.
Okay.
Que voilà, ils ont eu des aventures, ils ont vécu avec d'autres hommes, d'autres femmes.
Ok,
qu'ils finiront leur jour ensemble, ouais. C'est...
Entre eux, ils peuvent vivre des aventures dans chacun ouais. Dans leur.
Et ils l'admettent, ils le reconnaissent.
En fait, c'est.
Mais ils peuvent pas se passer l'un de l'autre, malgré tout.
C'est assez avant-gardiste parce qu'aujourd'hui on peut appeler ça une sexualité ouverte, une sexualité.
Bah, c'est encore plus compliqué que ça parce que.
Amour libre,
ouais,
mais. Amour, non, mais de l'amour
ouais,
libre.
Ouais. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est plus codifié que ça. C'est pas libre. Je crois que c'est assez codifié, justement.
Okay. Mais ils ont le droit de rencontrer qui veulent.
Voilà. Ah, ouais, ah. Ouais.
Et pourquoi tu t'es un jour. En ordre chronologique, c'est François Zardy. Ensuite, c'est qui?
Non, chronologiquement. Chronologiquement, j'ai d'abord fait le bouquin sur Taxi Girl.
Ok. Qui n'est pas encore paru, c'est ça?
Si, qui était paru en 2008. Okay. En 2008.
Et ils ont. L'éditeur a fermé ses portes.
Oui, il a fermé ses portes fin 2008.
Ok, donc il n'y a pas eu une grosse.
Non, il n'y a pas eu une grosse diffusion, okay. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, ça s'est comme étouffé, et tu as fait un autre livre, c'est ça?
Ouais, mais alors attention, le Taxi Girl, c'était quand même déjà mon quatrième livre. Mais... Parce que j'ai commencé par un recueil de nouvelles.
Ok, des nouvelles de.
Alors, ça s'appelait Somme Cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll.
Mais c'est toujours la musique, hein?
C'est toujours la musique, ouais. Okay. Ouais. Ce recueil, je l'ai fait au moment où j'ai arrêté de faire de la musique. Et,
c'était un peu pour exorciser la mort que
ouais,
tu avais donnée à la musique.
Ouais, voilà. Et puis la mort aussi d'une certaine façon de faire de la musique.
En France?
Ouais, mais ça, pour moi, ça remonte le moment où ça devient. Une industrie, c'est vraiment les années 80.
Okay.
Et donc pour moi, la mort de la créativité, elle se passe dans les années 80.
Et tu déplores ça aujourd'hui?
Et puis, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Et ce petit bouquin, là, Somme Cliché, il fait un petit peu le bilan de tout ça. J'ai pris 45 tours, comme ça, qui m'avaient marqué à différentes époques de ma vie. Et j'ai divisé le livre en trois parties. Alors, il y a l'âge de l'innocence. Où c'est mon innocence à moi et c'est aussi l'innocence du rock'n'roll et je raconte des histoires comme ça sur l'âge innocent du rock.
Sur quelle chanson?
Alors il y a de tout, il y a Rectangle de Jacques Noe, il y a une chanson d'un petit groupe français qui s'appelait Les Knights, qui avait une très belle chanson pop aussi, qui a dû se vendre à 500 exemplaires, mais qui était magnifique, très pur. Il y a Bijoux, Betty Jane Rose, composé par Gainsbourg. Ah, c'est de la pop aussi, c'est de la pop, power pop.
Okay.
Voilà.
Les papillons, ils ont repris
les papillons noirs aussi, ouais.
Okay.
Et Betty Jane Rose, ça avait été écrit sur mesure par Gainsbourg. Ça, c'est. Ils l'ont peut-être repris, mais c'est-à-dire que. Non, Gainsbourg l'a chanté avec eux.
Oui, c'est ça.
Ouais. Sur scène.
Au Palace, le groupe allait rejoindre Gainsbourg au Palace.
Non, c'était à Mogador. C'était à Mogador.
Oh, okay, Mogador, ouais.
C'est Gainsbourg qui est venu rejoindre sur scène Bijoux au théâtre Mogador.
Oui.
Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.